Les rendez-vous M28, racontons demain la fabrique des futurs. Ce cycle de rencontres et de podcasts s'inscrit dans le cadre des rendez-vous portés par Montpellier 2028, Terre de Culture, association de coopération culturelle en soutien à la création, la recherche et l'expérimentation. Ces rendez-vous, animés par Nicolas Dubourg, directeur artistique de M28, visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche de l'association afin d'interroger les transitions à l'œuvre, de nourrir de nouveaux récits et d'imaginer ensemble des futurs pluriels, désirables et porteurs de sens. Un vendredi par mois, des intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets sont invités à dialoguer autour de la thématique du futur à l'Hôtel d'Aurès, Cœur battant de Montpellier 2028. Un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Bonjour, bienvenue dans Racontons demain, une série de podcasts proposés par M28 en partenariat avec CRLO. Aujourd'hui, en compagnie d'une artiste de scène qui a travaillé comme comédienne, assistante à la mise en scène, auprès notamment de Lazare, Léa Drouet ou encore la compagnie de danse La Zampa. Elle a également fondé le collectif Compost avec Camille Louis, qui propose des formes immersives, où la parole, l'écrit, l'écoute de tous les participants sont articulés dans ce qu'elle nomme des fabriques du commun. Depuis quelque temps, et à l'occasion de la saison Méditerranée, portée par l'Institut français, elle conçoit un nouveau projet où les littératures, leurs traductions et leur mise en voix proposent aux spectateurs une nouvelle expérience de la lecture. Lectrice avide, voire boulimique, passionnée par le son et les formes radiophoniques, elle nous aide à imaginer de nouvelles formes du théâtre, ou peut-être même de quelque chose dont il faudrait inventer le nom. Laurie Bellanca, bonjour.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, je voudrais que nous revenions sur ton parcours d'artiste. Quels sont les mots que tu mets sur ton art aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que j'ai tendance à avoir très envie de défendre le mot de lectrice. Mais si je suis très honnête, ça ne s'arrête pas qu'à ça. La lecture, c'est une pratique qui semble assez banale, familière, voire un peu délaissée même. Mais en réalité, il y a quelque chose dans l'acte de lire qui me semble éminemment politique quant à notre rapport au temps, justement. Sur comment en fait on se tient quand on a un lecteur entre plusieurs temps, entre le temps de celui qui a écrit, le temps qu'on vit soi et le temps qui est à venir de l'imagination qui se construit dans le dialogue qu'on a avec les textes. Donc ça c'est pour l'amour de ce mot lectrice. Et cette pratique du jeu, d'être comédienne ou actrice, assez vite je me suis rendu compte que le dialogue qui se mettait en place avec les metteurs en scène et les auteurs, autrices, metteuses en scène, ça correspondait aussi à une forme d'écriture du plateau, certes, mais aussi d'écriture de la langue. Les mots sur un texte de théâtre ou dans un livre, ils ont mille formes. Le langage lui-même est polysémique. Donc quand on décide de jouer un texte, on lui donne sa suite, on lui donne une forme, une hypothèse, un parcours, comme si les textes restaient et étaient avant tout des potentiels qu'il fallait interpréter, manipuler, associer, parfois même maltraiter. Donc voilà, pour le lectrice, interprète, autrice.
Et pour peut-être donner quelques indications sur ton parcours, comment tu en es venue à cette forme-là de pratique du plateau ? Est-ce que tu as une formation à la base de comédienne ?
Alors j'ai eu des tas de formations, trois en réalité, et toutes, il n'y en a aucune qui a à voir avec le théâtre. J'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la musique énormément dans un parcours très classique de conservatoire, et puis ensuite j'ai fait beaucoup de danse, de chorégraphie quoi. Et je me suis retrouvée sur le plateau, en fait un peu par accident, mais il s'est avéré que le plateau, il venait croiser exactement tous les enseignements que j'avais reçus. Le rapport à la pensée, par la philosophie, à l'interprétation des textes, avec la danse, le rapport à l'espace, bien sûr, et à la relation avec les autres au plateau, et avec la musique, et le rapport à l'écoute. Au fait qu'en musique, par définition, on ne peut pas jouer si on n'écoute pas. C'est comme un accident très très heureux, ce plateau de théâtre, parce qu'il m'a permis d'être cette multiplicité-là.
Alors ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait creuser un petit peu, cette question précisément du théâtre. On a tendance des fois à réduire le théâtre à un dispositif scénique. En théâtre, on parle de la boîte noire. si on pense le théâtre dans 50 ans, par exemple, ou dans 100 ans, est-ce que cette question de le réduire à une boîte noire, c'est-à-dire à un plateau et puis des spectateurs en face, ça continuera à marcher? Si tel est le cas, qu'est-ce qu'il en reste du théâtre?
Alors moi, j'aimerais mieux pas le réduire, parce que je pense que ça va nous empêcher beaucoup de choses. Par contre, la boîte noire, pour moi, c'est que justement, il est l'endroit où quelque chose du temps et de l'espace peut se redistribuer, peut se redéfinir. Ça, c'est ce que permet la boîte noire, mais elle n'est pas la seule à le permettre. Et donc, ça veut dire que c'est presque plus le fait d'avoir un temps, avec un début, une fin, où on va se rassembler, faire communauté provisoire, pour partager quelque chose, un temps et un espace plus ou moins délimité, et j'ai la sensation qu'on peut, à l'intérieur de cette boîte noire-là, penser d'autres formes. Je vais citer Claude Régis, son approche du temps dans la boîte noire, elle est révolutionnaire en réalité, parce qu'il va le distordre tellement qu'on oublie même qu'on est dans un espace théâtral. On plonge dans une sensation individuelle, mais ensemble. Ça, c'est quand même un peu dingue en vrai. C'est possible par la boîte noire, mais c'est aussi possible par d'autres dispositifs si on essaie de prêter attention aux conditions nécessaires pour ça.
Oui, alors il y a quelque chose qu'utilise notamment dans les politiques culturelles, on parle des arts vivants. Et toi, tu as utilisé, lors de la préparation de cet entretien, le terme de oraculaire. Et j'aurais aimé que tu nous en parles un petit peu, de voir qu'est-ce que tu mettais à la fois à l'endroit du temps et à la question de ce mot un peu étrange que tu avais prononcé.
Peut-être pour revenir sur la question de l'art vivant, ce qui expliquera pourquoi j'arrive jusqu'à oraculaire, c'est que je crois que c'est en effet la question du temps, mais juste après ça, la question de l'attention, quel type d'attention on est capable de mettre en route. Pour moi, l'art vivant, ça serait plus celui qui en appelle aux relations. Donner une invitation précise qui invite un groupe de spectateurs à se mettre dans une situation pour être en attention au contexte qui les entoure, on est déjà quelque part dans de l'art vivant pour moi. Et quand je parle d'oraculaire, c'est que ce qu'il va se passer, personne n'en sait rien. Personne n'en saura jamais rien. On peut avoir défini un texte, un trajet, des relations écrites entre les comédiens, les comédiennes et les spectateurs, mais en réalité, ce qu'il va se passer entre les spectatrices qui sont là, d'où ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, comment ils vont repartir, personne ne pourra jamais le savoir. Et là-dedans, il y a quelque chose que j'aime bien imaginer comme étant une sorte de pratique oraculaire. Ces signes qui sont posés vont écrire une narration pour la personne qui les regarde. L'oracle, il n'a pas d'autre valeur que ça pour moi. Il n'est pas celui qui connaît le futur, il est celui qui propose des signes à interpréter, les agencer et les proposer à entendre, à voir, à des spectatrices et des spectateurs.
Comme on est là un petit peu dans cette série à se questionner sur le futur, notamment le futur d'une forme, comment tu réfléchis à ces choses-là? Est-ce que tu réfléchis le théâtre sous cet angle de la forme?
Alors peut-être je reviens sur ton introduction, parce que tu as parlé de compost, et c'est important du coup pour moi, pour répondre à ta question. Donc compost, c'est un collectif d'artistes qui a été créé à Berlin en 2009 maintenant. Ça s'écrit avec un K, K-O-M.P-O-S-T. Et Camille Louis, donc, qui est philosophe et dramaturge, au moment de choisir le nom, on était toutes les deux très baignées de cette notion de post-moderne. On était la génération post-moderne, plus rien à faire, c'est foutu, voilà. Et avec Camille, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire avec ce temps d'après. On arrive après tout, après les grands mouvements. Je me suis dit, mais la pratique du compost qu'on connaît, récupérer des choses inutilisables et trouver des conditions pour que d'autres formes de vie se remettent, continuent en fait en réalité, eh bien c'est peut-être aussi une sorte de métaphore qui pourrait nous aider. Et on a décidé de mettre le point entre compost pour juste dire on va faire avec le temps d'après et ça sera très bien. Et à partir de là, tout ce qui a émergé des dispositifs, des performances, des objets scéniques de compost, toujours cette question, elle est restée au devant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au lieu de vouloir s'inscrire dans une frise chronologique où on viendrait contre tel mouvement ou pour initier un nouveau mouvement, on s'est dit en réalité, il faut regarder les deux flèches du temps sans cesse et le futur. Donc comment on l'envisage? Eh ben, en restant toujours dans cette charnière qui donne la possibilité de commencer, en fait, de toujours être dans une situation où on commence on recommence quelque chose sans être amnésique.
Toi, tu utilises des médias assez mélangés. Il y a souvent de la radio, des dispositifs d'écoute, soit avec des casques. Il y a quelque chose d'une expérience un peu immersive, quelque chose que tu aimes beaucoup, parce qu'on retrouve ça dans la radio, notamment le fait de pas forcément voir, mais d'être baigné dans l'écoute. Comment tu envisages ce travail-là, sa suite? Qu'est-ce que tu cherches à nous faire entendre quand tu nous fais entendre un texte?
Je crois que la première étape, c'est de partager ce que le texte me fait. Et pour ça, il ne peut pas être tout seul, puisqu'il n'est pas tout seul. Il est dans une bibliothèque, il est dans ma main, il est dans un sac, dans un trajet. Certains livres, je me souviens tout autant de l'endroit dans lequel je l'ai lu, de la personne auprès de qui j'étais, ou voilà, de l'expérience dans laquelle j'étais, que du livre lui-même. C'est-à-dire que je finis par articuler le texte à ma propre histoire, et de manière encore plus élargie, à l'histoire dans laquelle je suis impliquée. Le contexte politique, le contexte climatique, tout ça. Donc, pour le partager, eh bien, j'ai trouvé des petits outils assez simples, par le son et par le point de vue, la lecture électrique, donc qui sont ce dispositif sous casque. Souvent, les auditeurs qui ont ma voix dans l'oreille, ma voix et les sons, ils sont aussi installés de sorte à être dans une situation. Très concrètement, les gens sont sous casque, tous reliés par des fils, ça va de 30 à 60 personnes, et il y a des micros qui sont posés aussi dans l'endroit où ça se passe. Le son du réel, le son du présent, il rentre aussi dans ma machine comme des couleurs avec lesquelles je vais peindre l'expérience de lecture. C'est pas juste un livre que je mets en scène et en son, c'est la plupart du temps une quinzaine d'extraits de texte. Il y a un fantôme qui m'occupe beaucoup dans mon travail qui s'appelle Abby Warburg, qui était un historien de l'art allemand du début du XXe siècle. Et Abby Warburg, il appelle les livres dans les bibliothèques des bons voisins. C'est-à-dire qu'il considère la manière qu'ils ont eu d'être agencés comme un rapport de bon voisinage. Il a mis en place une bibliothèque où la question de l'organisation n'était plus simplement par les auteurs, les temps, les genres littéraires, mais plutôt par une entrée qui était la sienne, et il accolait devant les livres des planches avec plein d'images. Sa question, c'était comment des archétypes d'images liées à l'Antiquité persistaient dans notre approche esthétique. Pour moi, c'est la possibilité de se dire que non, les pratiques et les genres ne sont pas réellement séparés, elles dialoguent les unes avec les autres, et c'est ça qui crée aussi nos expériences sensibles.
On va pouvoir découvrir dans quelques jours ton prochain projet qui s'appelle Bibliothèque vivante Atlas Fragments du futur, notamment le 22 mai à la Panacée dans le cadre de 10 jours en mai. Tu y seras en compagnie de deux artistes pour entendre des textes en grec, en arabe et en français. Et j'aurais aimé que tu nous en dises un petit peu plus.
Bibliothèque vivante, on passe un peu l'étape d'après. C'est la question des livres traduits. Puisque la moitié des livres de ma bibliothèque étaient des livres traduits, en réalité. Et ça m'a vraiment posé beaucoup de questions sur mais qui je suis en train de lire, en réalité.
Est-ce que tu lis l'auteur ou le traducteur ?
Voilà, de toute évidence, ils étaient ensemble. mais bon, voilà, ça pose la question de qui est l'auteur d'un texte, jusqu'à quand on est l'auteur de son texte, en gros. Et très vite, dans le contexte là, aussi politique dans lequel on est, des questions de comment les langues, en fait, elles avaient aussi des rapports de domination les unes sur les autres, des rapports d'héritage, parfois subis, parfois choisis. Donc ça démarrait comme ça. Et on a fait une première expérience à Casablanca avec donc cette autrice, Soukaina Abibalak. Et très vite, la question s'est posée entre l'arabe littéraire et le darija. Et Soukaina me disait, mais là, ton poème français, je ne peux pas le traduire en arabe littéraire, ça n'a aucun sens. On va perdre le fond de ce qui est dit. Donc il va falloir le traduire en darija. Et donc il y a tout un espace qui s'est ouvert de la traduction au présent, avec des auteurs vivants qui se mettent à faire des sortes de petits laboratoires de traduction. Un texte, il a mille vies possibles dans l'idée de ces traductions. La langue grecque est arrivée très très vite parce que le rapport étymologique au français, donc il y avait quelque chose qui venait dialoguer de manière assez troublante parce que ce sont trois langues extrêmement différentes. Les alphabets ne sont pas les mêmes, l'écriture n'est pas la même, l'organisation de la syntaxe n'est pas la même. C'est assez troublant parce que du coup cette matière-là, c'est comme si elle devenait fractale. Et pour bien décrire aussi ce projet, il est fait en dialogue avec donc un autre ouvrage qui s'appelle Vestiges du futur. Et donc Vestiges du futur, c'est le fruit d'un artiste, mais alors protéiforme. Il est musicien, il fait des films, il écrit des photos, qui s'appelle Frédéric D. Oberland. Son ouvrage, en fait, est une mise en regard d'images en Super 8 et un ensemble de textes déjà en plusieurs langues. Donc on a associé nos deux projets pour faire cette performance, Atlas, Fragments du futur. Et que de commencer à partager les corpus avec d'autres personnes, c'est un peu la piste que va prendre Bibliothèque Vivante pour son futur.
Oui, et qui remet vraiment clairement la question, on a commencé par ça tout à l'heure. Je te questionnais pour savoir si tu étais comédienne, autrice ou quoi que ce soit, et tu as dit « je suis lectrice ». On a tendance à voir le lecteur comme quelqu'un de passif. En fait, finalement, c'est peut-être le plus grand des créateurs, le lecteur.
Oh, j'adorais le croire. Roland Barthes, il disait un truc très joli sur l'impertinence de la lecture, en décrochant en fait le 1 de pertinence et en disant « il est absolument impossible d'avoir une pertinence de lecture et c'est ça qui rend le lecteur actif ». Il ne peut pas y avoir d'adéquation entre l'intention de l'auteur qui écrit et l'intention ou l'expérience du lecteur qui lit. Et c'est ça qui va créer la littérature, en réalité. Comment ces textes circulent, voyagent et sont recommencés par des lecteurs et des lectrices.
Et on espère que ce sera ça la question du futur, justement. C'est l'éternel début ou quelque chose dans cette idée-là.
C'est un poème qui s'appelle « Reposer le monde » d'Andrea Tomino. Et c'est dans un recueil sublime qui s'appelle « Poème à l'usage d'un monde en flammes, 21 voix pour raconter l'époque » au Castor Astral et qui est sorti il y a très très peu de temps. Je ne comprends pas toutes ces personnes qui veulent toujours avoir raison. Moi, je rêve d'avoir tort. Je rêve de me tromper sur toute la ligne. Et je croise les doigts pour que les choses n'aient rien à voir avec ce que j'imaginais. Je ne comprends pas les personnes heureuses et fières d'avoir eu bon sur un malheur, d'avoir prédit la chute. Moi, j'espère vraiment qu'on me fera mentir, qu'on trouvera des ressources auxquelles je n'avais même pas pensé. Je rêve vraiment que quelqu'un rêve plus fort que moi, que quelqu'un imagine plus grand que moi, plus beau, plus juste, que je ne saurais jamais le faire. Je ne veux rien plus qu'être surpris, que les futures catastrophes ne soient pas celles des films, celles qui nous font peur depuis un siècle, mais pour lesquelles nous ne sommes toujours pas prêts, comme si les vivre dans un écran était un vécu suffisant. Je rêve d'avoir tort. Enfant, j'aimais déjà me tromper dans mes équations, lire les consignes de travers, faire le tour du stade à l'envers, faire le tour du mauvais stade, tout seul, plutôt heureux de n'avoir aucun pas à suivre. Adulte, j'aime toujours parier sur le mauvais cheval. Mais si je ne sais pas ce qui rend un cheval mauvais, alors le fait de franchir une ligne après les autres, après les hurrahs du public, le fait de franchir une ligne qu'on lui a interdite, de franchir la limite au-delà de laquelle un cheval, alors, ne serait plus un cheval. Adulte, j'aime toujours compter les chevaux pour dormir. Oui, j'ai dit les chevaux. Je rêve d'avoir tort quand je pense à tout ce qu'il nous reste à faire, quand je pense à tout ce qu'il faudra replanter, reconstruire, renaître. Quand je pense à tout ça, je rêve d'avoir tort, que tout soit bien plus simple que je ne l'imagine, que je sois passée à côté d'un remède miracle. Je rêve qu'on me dise que je suis alarmiste, que j'exagère toujours, qu'on me dise « tu vois, c'était pas si terrible ». Je rêve d'avoir tort, je rêve qu'on m'apprenne que tout ira quand même, que tout ira toujours, même si par ici et par là et partout, l'avenir est 10 degrés en avance sur lui-même. L'avenir est 3 siècles en retard sur son propre temps. L'avenir est 20 fois trop lourd pour nos épaules. L'avenir est 20 fois trop lourd pour ses propres épaules. Pourtant, on continue d'y croire, à tort ou à raison. On échafaude des plans, on aiguise des joies, on prépare des vies, on piétine, on s'excite, comme au pied d'un grand 8, dont on ne voit pas les rails, dont on ignore les pentes, et on monte dedans tout heureux de choisir sa chute, persuadé d'avoir le choix. Et une fois dedans, Alors le doute s'installe, ça craque, ça gémit, ça se tord dans tous les sens, ça perd vis et boulon, et le bois se demande ce qui le fait bien tenir, et on ne sait plus si l'on crie de plaisir ou de peur, juste pour faire comme les autres. On crie, on regarde, on imite, on ouvre grand la bouche, mais aucun cri ne sort. C'est difficile de faire semblant, mais on a payé son ticket, on ne peut plus descendre. On espère secrètement que tout va s'arrêter. Et alors on dira « Dommage, j'aurais quand même bien fait un autre tour ».
Laurie Belenca, merci. Rendez-vous au prochain épisode de Racontons demain la fabrique du futur.
Merci, au revoir.